Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Le professeur Lazare. Urbain Lazare est né le 12 octobre 2045 à Lausanne. Ses parents sont des sommités dans leur domaine. Reva, sa mère, est une neurochirurgienne réputée pour accepter les cas les plus complexes qui se présentent à elle. Et ça lui réussit. Son taux de réussite crève le plafond. Elle a presque naturellement développé le complexe de dieu, ou de déesse dans ce cas. Mais ce qui ne l'empêche de présenter des qualités humaines indéniables. Elle a juste conscience de ses hautes capacités. Ce qui, associé à une beauté froide, un humour pinçant et un certain goût de la solitude, font d'elle une femme difficile d'approche. On ne lui connaît aucun prétendant ou relation de longue durée. Elle semble au-dessus de tout ça, en apparence du moins. Elle le regrette, mais n'a trouvé personne qui pique sa curiosité. C'est au cours d'une conférence qu'elle va croiser la route et le regard de Lucius Lazare. Ce grand garçon est spécialisé dans le traitement des troubles cognitifs. Il a émis une hypothèse qui fera beaucoup rire ses collègues. Et si on faisait transiter l'esprit du malade par une architecture artificielle pour réinitialiser les dites fonctions? Pour faire simple, mettre l'esprit d'un patient dans un robot et le remettre dans son corps d'origine pour créer une sorte de reboot. Idée saugrenue. Mais bon, s'il n'y avait que ça. Au premier abord, avec sa coupe de cheveux en perpétuel désordre, ses tenues négligées et l'impression que rien n'a d'importance pour lui, il n'en voit pas du rêve. On ne voit pas où il va en venir. Dès qu'il se met à parler, par contre, le consensus se fait à son sujet. C'est un connard. Il a ce talent pour trouver la faille de ses interlocuteurs et de la triturer au fer rouge. Ce qui lui vaudra moult gifles, coups de poing, un tabassage en règle et une provocation en duel. Pratique remise au goût du jour dans le duché du Luxembourg en 2061. Duel à l'épée qu'il gagnera, au premier sang versé. Faut pas pousser non plus. Il fait partie de ces personnages qui, parce qu'ils sont particulièrement doués, sont à l'abri de toute menace. La première rencontre entre Reva et Lucius aura donc lieu devant un buffet, après la conférence en question. Fidèle à ses habitudes, Lucius se retrouve seul à siroter son verre. Le hasard faisant son œuvre, la jeune femme se retrouve à ses côtés. Une belle cible, se dit-il alors qu'il entame la conversation. Il imagine déjà recevoir le verre de Reva au visage, ou une gifle, ou peut-être même un coup de genou dans l'entrejambe. Son péché mignon, c'est de voir pleurer ses victimes. Il imagine déjà le tableau. Sauf que Reva n'est pas une biche aux aguets. Et Lucius va s'y casser les dents. C'est qu'elle a dû répondre, la petite. C'est alors un duel à fleur et mouchetée qui va s'engager et qui va durer toute la soirée. Les autres convives lorgnant du coin de l'œil la femme qui tient tête à cet odieux personnage, sans lui balancer quoi que ce soit en visage ou s'enfuyant en pleurs. À la fin de la soirée, ils vont se quitter, se promettant de finir cette joute verbale. Contre toute attente, ils vont former un couple qui sera un modèle de stabilité. Les opposés, tout ça, vous connaissez. De cette union naîtra un seul enfant, Urbain. Élevé dans un milieu familial si propice en stimulation intellectuelle, il va faire preuve d'un esprit précoce et particulièrement vif. Aidé en cela par ses parents qui le poussent à explorer et tester toutes sortes de domaines. Tour à tour, il voudra être astronaute, ingénieur en structure spatiale, concepteur de robots. Finalement, il va opter pour la médecine, la neurochirurgie, à la plus grande joie de sa mère. Son père, lui, sera moins enjoué et dira que son fils n'allait tout de même pas s'abaisser à exercer un métier si banal. La dispute qui suivit entre ses parents sera homérique et inédite. C'est en effet la seule et dernière fois que Reva va jeter un objet au visage de Lucius. Pour la petite histoire, l'objet en question est le trophée décerné à Reva quelques années plus tôt pour célébrer une carrière exemplaire. Un mini obélisque en cristal qui laissera une vilaine cicatrice sur le front de Lucius. Mais ça, sa femme et son fils ne la verront jamais. Il quittera le domicile familial dans l'heure en lâchant à sa future ex-femme un sentencieux « Je suis déçu ». Urbain ne reverra son père qu'à de rares occasions, et comme un pied de nez, ce dernier portera systématiquement un chapeau, peut-être pour cacher une cicatrice. Porté par sa mère, il va donc se lancer dans des études de médecine. Mais n'ayant pas les facultés de sa génitrice, il va galérer un petit peu pour tenir le rythme que demande ce genre d'études. Toutefois, bon an mal an, il va finir son cursus préliminaire avec une honorable deuxième place. Comme annoncé, il y a plusieurs années de ça, il va se spécialiser dans la neurochirurgie. Ça ne va pas être simple non plus. Bon, déjà, techniquement, cette discipline est très exigeante, plus encore que les autres. Mais aussi parce qu'on l'attend au tournant. On va logiquement comparer son parcours avec celui ô combien prestigieux de sa mère. Cette dernière lui avait conseillé de garder le nom de son père pour éviter cette situation. Mais le jeune homme avait toujours une dent contre celui-ci. Non sans difficulté, Urbain sera diplômé en neurochirurgie et en signe de vengeance, il fera inscrire sur le document officiel les noms de famille de sa mère et de son père. Document qu'il encadrera et fera livrer à son père. Mais à ce moment, il n'est plus forcément histoire de rancune. Durant ses études, Urbain va commencer à étudier les travaux de son père. Il a beau être un humain exécrable, il n'en reste pas moins un scientifique de génie. Et sa théorie concernant le transfert de l'esprit d'un humain a commencé à infuser dans certains milieux. Certes, cela reste un sujet propice aux moqueries, mais l'idée fait son chemin. Les années passent, et Urbain n'est plus le fils de la fameuse Reva, mais bien un neurochirurgien reconnu internationalement. Il enchaîne les opérations compliquées, voire impossibles. Il est souvent le dernier recours des cas désespérés. En 2078, il rencontre Babette Glickenhaus, qui deviendra sa femme et la mère de leur fils, Ézéchiel. Bref, il est comblé. De quoi rendre sa mère fière de lui? Pas vraiment. Reva, depuis quelques années, a vu ses capacités intellectuelles baisser au point de devoir mettre un terme à sa carrière. Quelle ironie de se faire battre sur son propre terrain. Passer sa vie à sauver des cerveaux pour voir le sien péricliter inexorablement. Elle sera déjà largement diminuée quand elle deviendra grand-mère et ne verra jamais combien son fils lui a fait honneur dans leur domaine commun. Elle s'éteindra le jour où Urbain recevra la même récompense qu'elle, le fameux trophée en cristal qui aura entaillé le front de Lucius. Et au fait, Lucius, il devient quoi? Il continue ses recherches dans son coin, toujours aussi sulfureuse. Sachant Reva sur une pente fatale, il aura l'audace d'envoyer à son fils un message lui proposant de transférer l'esprit de sa mère dans un robot, avant que la déliquescence cérébrale passe à sa critique. Urbain ne prendra même pas le temps d'agonir son père d'insultes pour avoir seulement envisagé cette solution. Et comme si ce n'était pas suffisant, le petit Ézéchiel est diagnostiqué d'une maladie orpheline dégénérative, le syndrome Kepler-Dvorak. À cette époque, la médecine aurait très bien pu gérer ça et établir un protocole de soins qui aurait permis aux jeunes garçons de vivre avec cette maladie. Mais l'oblitération est passée par là, et le système de santé a été déréglé pour quelques années. Même Urbain, avec l'aura et l'influence dont il dispose, ne pourra rien. À quoi ça sert d'être le meilleur neurochirurgien du monde s'il ne peut pas protéger son fils? Il va apprendre que son père a, dans l'ombre, essayé lui aussi de sauver le garçon. Mais d'une manière moins conventionnelle. On peut même dire carrément abjecte. Il a recruté une mère porteuse qui portera en son sein un bébé génétiquement modifié dont le sang contiendrait les éléments à même de guérir Ézéchiel. Mais comme si le destin s'acharnait à ce qu'on ne puisse sauver le petit garçon, la mère enceinte du bébé sauveur va être victime de la fièvre de la taïga. Urbain est désespéré. lui, le fameux neurochirurgien à qui tout souriait, le vouloir réduit à voir son fils mourir. Destinée certes atroce, mais qui malheureusement se produit souvent, dans tous les milieux, sous toutes les latitudes. La nature humaine est ainsi faite. Les humains ne sont présents qu'à titre provisoire. Mais pas pour Urbain Lazare. Lui, il vaut mieux que ça. Lui, il va défier la mort. Lui, il va réussir à éviter l'inéluctable fin de son fils chéri. Est-ce le déni ou la mégalomanie qui le motive? Un peu des deux, peut-être. Mais qui pourrait le blâmer sur son intention? Qui ne ferait pas tout ce qui est possible pour sauver un être cher? Il va alors consulter tous ses confrères, éplucher toutes les publications, prêter une oreille attentive à toutes les solutions envisagées, même les plus saugrenues, voire les plus dangereuses. Il va même discrètement croiser divers charlatans, chacun ayant leur solution miracle. La mère du garçon, elle, va se tourner vers la religion et intégrer un ordre religieux extrémiste dans l'espoir d'un signe divin. Tout cela en pure perte. C'est au cours d'un soir où l'alcool coule à flot et que la résignation commence à s'insinuer dans son esprit embrumé qu'Urbain va se remémorer un des messages envoyés par son père. Au fil des ans, il en a reçu une tripotée. Des plus maladroites tentatives de retrouvailles à des dossiers complets sur ses recherches. Et c'est dans cette catégorie que la description d'un protocole l'avait fait tiquer tant il était ubuesque. Transférer un esprit humain dans une machine. À l'époque, il avait trouvé cette idée dérangeante, même venant de son père. Mais l'abattement mêlé à l'alcool n'est pas un bon conseiller. Bien que totalement enivré, il reprend contact avec son père et lui demande son aide. Le lendemain, dessoulé, c'est une affaire entendue. Lucius et lui vont œuvrer pour le salut d'Ézéchiel. Le retour à la sobriété aurait dû lui faire retrouver un semblant de sens critique. Mais non. Visiblement, quelque chose avait changé en lui. Il avait passé un cap et il n'était plus question de retour en arrière. Aidé de son père, il va commencer à peaufiner le processus. Il faut tout d'abord définir ce qu'est un esprit. On sait déjà une chose, il se trouve dans le cerveau. Bon ben, il n'y a qu'à faire une grève de cerveau et l'affaire est réglée. Ça s'est déjà fait, les résultats sont plutôt satisfaisants. Or, le syndrome Kepler-Dvorak attaque justement la matière grise du cerveau, et une fois la dégénérescence entamée, rien ne l'arrête. Le support physique étant corrompu, il va en falloir en extraire l'essence même. Lucius, durant des années, avait cogité le sujet et à force de scanners, électroencéphalogrammes et autres IRM, avait réussi à identifier les caractéristiques spécifiques de l'être humain. Il a pu établir la carte du cerveau et de ses différentes zones constitutives de l'esprit. Bon, on sait la définir, du moins d'une manière méthodique, instrumentale. Quant à la question philosophique de la chose, les deux hommes ont décidé de laisser cette partie un poil éthérée à leurs collègues des sciences dites « molles ». Le temps était précieux et ce qu'ils voulaient, c'était des mesures concrètes. Il fallait maintenant pouvoir le capter, ce fameux esprit. Pour cela, Lucius a fabriqué une machine qui capte de manière simultanée tous les signaux dans diverses longueurs d'onde. Qui capte, mais qui n'enregistre pas. C'est là que le bât blesse. Il n'a pas trouvé de moyens assez puissants et fiables pour stocker un esprit. C'est un peu comme si on voulait capter la puissance d'un éclair pour la mettre dans une batterie. On sait diriger plus ou moins la foudre, mais rien n'existe qui encaisse le choc. C'est pareil pour un être humain. Le volume de données et la force du flux sortant est telle qu'aucune machine peut tout recueillir. Du moins à l'époque des premières recherches de Lucius. Depuis, la cybernétique a fait d'énormes progrès. Dans un domaine en particulier, celui des intelligences artificielles. Pour pouvoir intégrer des IA dans des dispositifs raisonnablement mobiles, il a fallu travailler sur des systèmes de plus en plus puissants et miniaturisés. Et le summum de ces systèmes, alors que les travaux conjoints de Lazare, père et fils, achoppent sur un receveur informatique, c'est le Placato. Son architecture fut révolutionnaire sur plusieurs points, dont certains qui vont intéresser les deux hommes. Les semaines suivantes vont être occupées à acheter, troquer, ou plus simplement voler les Placato de la série qui aura échappé à l'extinction. Bon, faisons le point. On a le logiciel pour cibler l'esprit, l'appareil pour le transférer, et le réceptacle en quantité suffisante pour les tests. Parce que oui, il va bien falloir tester le transfert, car il reste des inconnus. Tout le processus est théorique et plusieurs questions sont en suspens. Que se passe-t-il si on oublie une partie des signaux à capter? Combien de temps va durer le transfert? Le transfert copie-t-il l'esprit ou alors le dégage-t-il complètement du cerveau d'origine? Et pendant ce temps, l'horloge tourne. Ézéchiel a encore toute sa tête, mais il a parfois des absences. Signe que la maladie a commencé son travail de sape. Pour pouvoir valider le protocole de transfert, il faudra le faire avec un esprit humain. La machine est calibrée pour un cerveau humain et seul un humain, en théorie, aurait les capacités à appréhender la situation. Faites ça avec un chien, comment vous saurez qu'il est bien arrivé, entre guillemets? Vous aurez beau lui expliquer la situation, il n'y comprendra rien. C'est à partir de ce moment que les deux hommes vont verser dans l'abject. Lucius, lui, avait assimilé cet aspect de la chose. Il n'en était plus à une transgression près. Urbain, jusqu'à ce moment, va vivre dans le déni. Pour lui, toute cette démarche est surtout un exercice de pensée. Il est ultra motivé pour sauver son fils, il a envisagé une foultitude de solutions, toutes ont mené à une impasse. Il a commencé à étudier les travaux de son père par résignation, sans vraiment y croire un soir de cuite. Comme une petite graine, cette solution va doucement et inéluctablement germer. Vous savez, cette idée qui jaillit un jour, qui ne va plus vous lâcher. Elle va parfois se cacher dans un coin de votre esprit, histoire de grandir dans l'ombre, masquée par toutes les vicissitudes de la vie. Et un jour, elle vous revient. Grande, forte, implantée si profondément que vous n'avez d'autre choix que de l'accepter et de la concrétiser. Eh bien, un jour, Urbain va se réveiller, et cette idée qu'il avait jusque-là repoussée de toute sa volonté, il va y adhérer dans toute son acceptation aussi révoltante, nauséabonde et gerbante qu'elle puisse être. Les placatos ont été faciles à trouver. Pour ce qui est d'humain, c'est pour ainsi dire impossible. Pas pour Lucius Lazare. Son influence lui ouvre beaucoup de portes, et moyennant finance, il va trouver des cobayes. Mais même pour lui, ça ne va pas être simple. On tutoie un des tabous ultimes de l'humanité. Le premier malheureux cobaye est un garçon de 6 ans, dans le coma sans aucun espoir de réveil. Son encéphalogramme est faible, mais pas nul. Pour ce premier transfert, l'ambiance dans le labo est pesante. Lucius est calme, froid, professionnel. Urbain est fébrile, pâle. Il a vomi tout ce qu'il pouvait avant d'entrer dans la pièce. Il n'ose même pas regarder le jeune garçon allongé sur le brancard. La partie biologique sera assurée par son père. Lui aura en charge la partie informatique. Démarrage du transfert. Techniquement, tout va bien se passer. L'esprit du garçon est identifié, localisé, isolé. Il est ensuite capté et transféré. À l'instant où le transfert est achevé, l'encéphalogramme du garçon tombe à zéro. Du côté du robot, rien. Il a bien reçu le paquet donné, mais aucune réaction. Pourtant, les moniteurs sont formels. L'esprit est bien implanté et réactif. Mais quelque chose ne va pas. Urbain trouve le problème. Le transfert a altéré de manière infime le paquet de données. Ce qui fait que l'interaction enfant-machine est corrompue. Un simple caillou face à la montagne d'informations qu'a transité, mais qui a suffi à tout dérégler. Pour faire simple, le garçon est éveillé, conscient, mais prisonnier dans un robot qui ne bougera jamais. Et au vu des informations transmises par les moniteurs, il réagit mal. Très mal. Urbain sort de la pièce en courant pour vomir encore et encore. Vous l'avez déjà eu cette sensation quand vous pensez avoir pu tout rejeter ce qui était possible et que là c'est l'estomac qui se retourne comme si lui aussi voulait sortir. Lucius, lui, reste impassible au sort du garçon et éteint tout simplement le robot pour mettre fin au calvaire. Du moins, il suppose que ça va y mettre fin. Vu que c'est une première dans l'histoire, personne ne sait ce qu'il va advenir de l'esprit du malheureux petit garçon. On peut se rassurer en disant que rien de son esprit ne subsistera après l'éteinction du robot. Le protocole est revu et le risque réduit au maximum. Le deuxième cobaye est aussi un garçon de 6 ans, condamné par la médecine, est bel et bien conscient, bien que très fatigué. On va lui expliquer ce qui va se passer, sommairement. Comment décrire un enfant de 6 ans qu'on va transférer son esprit dans un robot? C'est avec force mensonge que le garçon est rassuré. On ne l'endort pas, histoire que la sédation n'interfère pas avec le transfert. Autant le premier essai s'est bien passé en apparence, autant celui-là va virer très vite au cauchemar. Une micro-coupure électrique va faire planter le transfert. La fiabilisation s'était faite sur la partie informatique seulement, et au vu de la sensibilité du projet, ils avaient monté le labo dans un local discret, le sous-sol de la maison d'Urbain, mais à l'alimentation électrique non sécurisée. Une entreprise pêche toujours par son point faible. La panique va régner en maître pendant les premiers instants. Le robot va bondir en éructant tous les sons qu'il pourra générer, mais dans une modulation qui exprime clairement l'effroi. Il va se mettre à courir comme un poulet sans tête, renversant tout sur son passage. Allongé sur le brancard, le pauvre garçon émet des borborygmes, bavant et secoué de violents spasmes. Pour ajouter à la confusion, Lucius hurle sur son fils pour qu'il aide à attraper le robot. Ce dernier tourne sur lui-même pour appréhender toute l'horreur de la scène, comme s'il cherchait à se sortir d'un mauvais rêve. Mais non, Urbain, tu es au beau milieu d'une expérience dont tu es le responsable et qui a tourné de la plus mauvaise façon possible. Tu auras beau rester planté au milieu de ce labo digne des enfers, rien n'y fera. Tu es bien là, tu es à la source de tout ça, et il va falloir que tu vives avec. Au bout de quelques minutes, le calme revient. Lucius a arraché la batterie du robot. Et le pauvre garçon est mort d'un arrêt cardiaque. L'analyse du transfert montrera que 75% de l'esprit avait été transféré dans le robot avant la micro-coupure. C'est un esprit qui a régressé qui se retrouvera dans le placato. Sans la partie intellectuelle complète, on aura quasiment affaire à un animal sauvage aux commandes. Dans le cerveau du garçon, ne restaient que des bribes désordonnées, incapables de gérer le petit corps et lançant à la volée des ordres incomplets et contradictoires. Le cœur n'aura logiquement pas résisté à un tel traitement. Urbain n'en peut plus. À l'inverse de son père, qui a déjà réfléchi aux modifications indispensables pour le prochain essai. Le téléphone de Lucius sonne. C'est l'infirmier qui lui a fourni les corps des petits garçons. La police a eu vent de leur expérimentation et elle est en route pour faire cesser tout ce cirque. Elle sera là dans une heure. Pour Urbain, c'est une porte de sortie. Il veut mettre un terme à tout ça. Son père, lui, dans sa folie mégalomaniaque, veut tenter le tout par le tout. Il profite d'un moment d'absence de son fils pour l'enfermer dans une pièce attenante au labo et va chercher Ézéchiel qui se trouve dans une chambre médicalisée à l'étage au-dessus. Urbain voulait la voir auprès de lui dans un cadre familial pour l'accompagner dans ses derniers jours. Lucius installe son petit-fils sur le brancard, un nouveau placato sur la table attenante. Et, accompagné par les coups qu'Urbain donne sur la porte pour la défoncer, il lance le transfert. Tout semble bien se passer. Et il s'achève quelques secondes après qu'Urbain ait fini de forcer la porte, se soit jeté sur son père et commencé à l'étrangler. Il serre ses mains autour du cou de son père, celui-ci allongé sur le dos ne se défend même pas. Il semble soit résigné, soit satisfait de la mission accomplie. Tout d'un coup, Urbain sent un contact sur son épaule. Les flics sont déjà là. Il tourne la tête et voit un robot debout sur la table, qui lui tend un petit cœur en baudruche. It's good.